Chapitre 52. Chaque jour comme si c'était le dernier.
Chris ? Chris ? Bill ? Vous êtes là ?
Zizo s'arrêta devant la cellule, à bout de souffle. Il avait présumé de ses forces. Sa jambe soignée par Moebia ne saignait plus, mais l'anesthésiant qu'elle lui avait injecté la rendait aussi dure qu'un tronc d'arbre, quasiment impossible à plier.
Zizo, tu es revenu avec les clés ?
Il s'avança jusqu'au barreau.
Non, mais...
Il écarquilla les yeux. La pièce était éclairée par une minuscule veilleuse, suffisante pour constater qu'Idris et Django l'avaient devancée, et que la fille de Genor et Mordelia n'étaient plus là. Grisante, les yeux exorbités, cracha sur lui toute sa fureur.
Alors ne reste pas là, idiot ! Sans clé, tu ne pourras pas nous délivrer ! C'est l'aînée qu'il faut sauver. Seulement elle. Ils l'ont emmenée dans le bunker. Il faut que tu y arrives avant que ce malade d'handicapé s'enferme à l'intérieur.
Elle a raison. Le plan du palais de l'Élysée défila dans la tête de Zizo. Par les galeries, le PC Jupiter se trouvait à une centaine de mètres au sous-sol, presque à la même profondeur que les cachots. Il avait encore une chance s'il se dépêchait. Il tenta de plier le genou, eut l'impression de tordre une barre de fer, mais sa rotule tint bon. Il s'élança en boitant, se tenant aux parois du couloir pour s'aider. Il approchait du premier escalier quand il entendit Crisante crier
« Ramasse, Lali ! Elle doit être tombée près de toi !»
Tout se bousculait dans la tête de Zizo. La captivité n'avait donc rien arrangé. Crisante était toujours aussi folle. Plus préoccupée par une poupée de chiffon que par sa fille adoptive. Il ne devait pas perdre de temps à écouter ses délires. Il devait se rendre au bunker, il devait...
« Sors ta putain de lampe laser et ramasse la lit !»
Zizo soupira, et sans savoir pourquoi, obéit. Il y avait toujours eu dans les ordres ou les prophéties de Crisante, même les plus étranges, une part de vérité à laquelle on était obligé de croire. Le faisceau de sa lampe balaya le sol.
« Ce crétin de Django m'a dit un truc bizarre, »
continua Crisante d'une voix adoucie.
« Juste avant d'emporter Sélénée, tu auras davantage besoin qu'elle de cette poupée. Je te demande juste de vérifier. »
Le rayon de la lampe s'arrêta brusquement. Lali attendait dans la poussière, au centre du rond de lumière. Ses bras de chiffon étaient croisés sur sa poitrine, comme si elle protégeait un trésor. Zizo les déplia doucement et découvrit une clé de fer posée sur son cœur. La clé de la cellule, forcément. Pourquoi Django l'avait-il posée là ? Pourquoi l'avait-il laissée tomber en secret, sans prévenir Idris, son éternel complice ? Zizo n'avait pas le temps de chercher à comprendre. Il se précipita, confia Lali à Crisante et tourna la clé dans la serrure. Elle s'ouvrait. Bill fut le premier à sortir. Il n'avait pas prononcé un mot depuis que l'espion était arrivé. Il s'était juste baissé pour récupérer sa couronne d'osier. Immédiatement, Zizo eut peur d'avoir ouvert la cage d'un fauve, peur qu'il se jette sur lui pour l'étrangler, peur de ses yeux hallucinés de tueur, déformés par la colère et la haine. Bill passa devant lui sans le regarder. Avec une force physique stupéfiante pour un homme enfermé depuis des mois, il se mit aussitôt à courir et disparut dans l'escalier. Crisante était elle aussi sortie de la cellule, mais ne pouvait suivre le rythme de Bill. Elle se cala sur l'allure de Zizo, serrant sa poupée contre son cœur.
« Oh là là, Lali, je crois que Genor va passer un mauvais quart d'heure. Bill n'a pas l'air content du tout. Allez, on doit se dépêcher et retrouver Sélénée. Tu as vu, pour une fois, Zizo a tenu sa promesse. Il est revenu. Oui, je sais. » Il nous avait promis un baiser, mais ce n'est pas le moment, Lali. Plus tard, il nous embrassera plus tard, je te le promets.
Alerte ! Alerte ! Un homme approche !
Seul ?
Oui, seul ! C'est le généralissime !
Novak bouscula quelques soldats chargés de garder l'Arc de Triomphe et se précipita pour observer lui aussi l'avenue des Champs-Élysées, la plus large des 12 rues qui se rejoignaient place de l'Étoile. En ligne droite, il pouvait voir jusqu'à la place de l'Aiguille, le verger, la pyramide brisée, le sanctuaire et plus loin encore, le château de Vincennes. Jeanne d'Arc s'avançait vers eux, droit comme un beau, marchant à pas réguliers. Impossible de le manquer dans son uniforme rouge, au milieu de l'immense boulevard désert.
« À vos armes !»
cria le général. Les 20 soldats de la place de l'Étoile mirent en joue leurs longues arbalètes Jaguar, les plus efficaces de l'Empire, d'une précision inégalée jusqu'à une portée de 100 mètres. Jeanne d'Arc ne ralentissait pas. « Il a du cran !» ne put s'empêcher de penser le général Borgne. Jeanne d'Arc avait toujours été pour lui un modèle et un rival. Il avait été délégué des soldats, puis ministre des punitions, puis généralissime. Il avait reçu l'estime de l'empereur, l'amour de la plus belle et la plus riche femme de l'Empire. On ne pouvait que le jalouser sans s'empêcher de l'admirer.
« Arrête-toi, Jean !»
ordonna Novak avec le plus d'autorité possible. Jeanne d'Arc continua du même pas, au même rythme, comme guidé par un tambour militaire que lui seul entendait. « Il a du cran, mais il est fou !» continua de penser Novak. Pour qui le généralissime se prenait-il? N'avait-il pas compris? Il avait commis la pire faute pour un soldat. Il avait trahi son camp, son drapeau, son souverain. C'était pour cela que le grand cerf l'avait envoyé aux confins de l'Empire avec sa cavalerie, parce qu'il avait deviné qu'il n'était plus fiable et que c'était à lui, Novak, de prendre la tête de l'armée impériale. Son heure était venue. Même si cette prétentieuse de Vanille, à qui il avait écrit une dizaine de lettres d'amour sans recevoir aucune réponse, avait décimé son armée de mercenaires sous une pluie de lune. Les rebelles arc-en-ciel avaient gagné. Novak aurait été fou de ne pas le reconnaître, mais les soldats formés au château par Marie-Lune depuis leur naissance ne se rendraient pas et ne trahiraient pas. Tous portaient les lettres SSS brodées sur leurs manches. Novak avait demandé qu'au sommet de l'Arc de Triomphe, au milieu des étendards verts du Grand Cerf, on accroche le drapeau rouge orné d'un beau et d'une chaîne, celui du pavillon des soldats.
« Encore un pas, Jean !»
cria le général Borgne.
« Et j'ordonne à mes arbalétriers de tirer !»
Vanille progressait, accroupi dans la jungle des jardins des Champs-Élysées. Les ronces avaient poussé telles des fils barbelés entre les sapins, les cèdres et les chênes longeant l'avenue. Les fontaines de pierre, noyées dans la verdure, étaient recouvertes de mousse, d'une couleur proche de sa combinaison vert fougère. La végétation touffue permettait d'avancer sans se faire repérer, au plus près de la place de l'Étoile et de l'Arc de Triomphe, surtout si Jean attirait à lui tous les regards. La grande argentière tremblait. Elle devait trouver ce moulin sublime avant que Jeanne d'Arc joue au héros. Elle ne cessait de consulter l'écran de verre du sublimateur, mais aucune lueur jaune n'apparaissait sur la boussole. Elle n'avait emporté aucun animal magnétoréceptif, elle n'avait pas eu le temps. Elle avait de toutes les façons toujours détesté les animaux, la pêche, la chasse, la cueillette et toutes ces activités du tipi. Un tunnel de mûrier s'ouvrait devant elle. Elle n'avait pas le choix. Elle devait le franchir. Elle sentit les ronces labourer ses bras, ses jambes, mais elle se retint de crier. Elle était passée. En levant les yeux, elle apercevait les drapeaux verts et rouges plantés sur l'Arc de Triomphe. En les fermant, elle entendait le brouhaha d'ordre lancé par les soldats. « Vite, trouvez ce foutu moulin !» Elle continua sans se soucier de ses écorchures ensanglantées. L'arc n'était plus qu'à une centaine de mètres. Si le moulin se trouvait dessous, à la hauteur de cette flamme qui, paraît-il, brûlait dans le monde d'avant en mémoire d'un soldat inconnu, elle n'aurait aucune chance de l'atteindre, à découvert, au milieu de la plus grande place de Paris. Mais quel rapport entre cette flamme et les moulins? Haussmann était pourtant formel, le moulin des soldats était là, quelque part. Vanille aperçut soudain les 5 formes sombres jaillir d'entre les feuilles. Elle crut un instant qu'il s'agissait de géants ou d'ombrageurs en fuite, avant de se rendre compte qu'elle se trouvait face à des statues oubliées dans la jungle du jardin. Les 5 silhouettes de bronze représentaient des visages douloureux, torturés, posés sur des socles difformes comme si le sel de leurs larmes avait dissous leur corps. Elle lut successivement les noms gravés sur chaque pilier sculpté. Les larmes, le murmure de la résistance, l'emprisonnement muet, la disparition, la renaissance. Elle se trouvait face à un monument dédié à la résistance dans le monde d'avant. Était-ce encore un hasard? Où pouvait donc se trouver ce... Elle faillit buter sur une stèle, entièrement dissimulée dans les fougères, au centre des cinq piliers. Elle arracha les racines, écarta les feuilles et lut un nouveau nom, au moment précis où l'écran de sa rose des vents émit un reflet jaune. Jean Moulin, 1899-1943. Jeanne d'Arc s'était arrêtée à une centaine de mètres de la place de l'Étoile, 20 arbalètes jaguars braquées sur sa poitrine. Il regardait droit devant lui, même s'il mourait d'envie de tourner la tête, de fouiller des yeux les jardins bordant l'avenue, de chercher la silhouette de Vanille. Elle était là, quelque part, tout près, à chercher le moulin sublime. Il devait juste gagner du temps. Il devait éviter que les soldats, eux aussi, ne tournent la tête vers les jardins.
« N'avance pas plus loin !» ordonna Novak. « La place est une zone d'intérêt impérial. Ordre de l'Empereur !»«
C'est fini, Novak. Il n'y a plus ni Empire ni Empereur. »
Le général le dévisagea de son œil unique. Il laissa éclater un rire exagéré.
« Qu'en sais-tu ? Tu lui as demandé ? C'est à moi qu'il a confié le soin de garder l'Empire, parce qu'il ne te faisait plus confiance. Et il a eu raison, comme toujours. » Jamais je n'aurais pu croire que tu deviendrais un renégat!
Derrière lui, Diana, Clark et Noélie, sans lâcher leurs arbalètes, opinaient de la tête. Jeanne d'Arc, avec force et dignité, arracha un à un les boutons d'argent qui fermaient la veste rouge de son uniforme.
Tout ceci nous dépasse,
lança-t-il d'une voix claire.
Eugénor lui-même a décidé de sacrifier l'Empire, de sacrifier le Nouveau Monde, de tous nous sacrifier. Le devoir d'un soldat est de protéger la paix, pas d'aider un fou à commettre la pire des atrocités.
Novak éclata à nouveau de rire, de façon plus naturelle cette fois.
Et toi, le grand Jeanne d'Arc, tu crois à ces fables? C'est cette blonde du tipi qui t'a fait tourner la tête? On n'aurait jamais dû se mélanger avec ces barbares.
Jeanne d'Arc serra les poings. Il ne devait pas laisser la colère l'habiter. Il devait encore gagner du temps.
De toutes les façons, ta résistance est vaine, Novak. Dans quelques minutes, Rick et son armée arc-en-ciel viendront vous encercler. Tu gardes le dernier monument de Paris sur lequel flotte le drapeau vert. Et le rouge, Jean? Les couleurs de notre pavillon? L'as-tu oublié?
Novak se redressa fièrement et regarda tour à tour, de son seul œil, les 12 rues qui convergeaient vers la place.
« Qu'ils viennent, cet albinos puant! On l'attend! Nous, on ne change pas de camp quand tourne le vent !»
Jeanne d'Arc comprit que Novak ne céderait pas. Certains soldats, face à lui, commençaient à se méfier et surveillaient les alentours, les 11 autres rues, les jardins des Champs-Élysées. Il n'avait pas d'autre choix que de continuer de marcher vers l'Arc de Triomphe et d'espérer que les soldats n'obéiraient pas à Novak. Il connaissait chacun d'entre eux depuis qu'il était né.
« C'est Eugénor qui nous trahit, pas moi !»
Jeanne d'Arc avança, droit, à un rythme lent mais régulier, celui des militaires dans un défilé mortuaire. Curieusement, à ce moment précis, il repensa à la prophétie de Chrysante, celle qu'elle avait formulée 2 ans plus tôt, devant Akan, Bill et lui. L'un règnera, l'un mourra, et le dernier partira. Il avait toujours été persuadé qu'Akan régnerait, parce qu'il était convaincu que lui-même partirait explorer les limites de l'Empire, avec Vanille et sa cavalerie, pour fonder de nouvelles colonies, y apporter la paix et le progrès, et donc que Bill mourrait. Et s'il s'était trompé? Jeanne Moulin, 1899-1943. Vanil ne devait plus perdre de temps. Elle se souvenait vaguement d'avoir appris que Jean Moulin était le résistant le plus célèbre de la dernière grande guerre du monde d'avant. Sous le panneau de la stèle, elle repéra deux petites charnières. Dès qu'elle souleva la plaque de bronze, le sublimateur se teinta de jaune, vif cette fois. 10, 9, 8. Une urne était posée dans la stèle, identique à celle contenant des cendres funéraires, mais celle-ci était remplie d'une poudre d'or. Elle lut les mots gravés sous l'emplacement de la rose des vents. Couchant, un moulin pour que survivent les plus forts. 7, 6, 5. Elle posa avec précaution le sublimateur. Un mécanisme s'enclencha aussitôt. La poudre d'or noircit presque immédiatement, comme pour se transformer en véritable cendre. Vanille n'attendit pas que les poussières deviennent noires. Elle ne prit même pas le temps de reprendre le sublimateur. Elle se précipita à travers les herbes, les orties et les branches. Elle n'éprouvait aucune joie d'être parvenue à détruire ce moulin. Elle avait juste le sentiment d'avoir accompli une corvée. Mais l'essentiel n'était pas là. Un nouveau mur de mûrier lui barrait la vue sur la place de l'Étoile. Elle entendit d'abord les ordres. « N'avance pas, Jean !» Elle tenta d'écarter les ronces, à pleine main, indifférente aux épines qui se plantaient dans ses paumes.
« Soldats, prêts !»
Elle reconnaissait la voix de Novak, ce sale borgne prétentieux qui lui avait fait la cour dès que Jean avait eu le dos tourné.
« Soldats, en joue !»
Vanille parvint enfin à déchirer le rideau vert. Elle vit Jean faire un pas supplémentaire.
« Feu !»
Elle vit 20 flèches jaillir des arbalètes jaguars et transpercer Jean aussi facilement qu'un mannequin d'osier. Elle le vit tomber à genoux d'abord, sans qu'aucune goutte de sang semble couler de son uniforme rouge, puis tomber face la première pour embrasser la terre. Sous son corps allongé, une tache sombre se forma, puis s'agrandit, telle une longue cape rouge sur laquelle il se serait endormi, celle du héros qu'il serait à jamais. De fins rayons de lumière traversaient la chambre intérieure de la pyramide égyptienne. Quelques briques, usées par le temps, la pluie et le vent, s'étaient descellées et laissaient entrer des éclats de soleil.
« Plutôt sobre comme décor, » fit Sabi.
L'intérieur de la pyramide se résumait à un carré de 5 mètres sur 5, haut de 10 mètres, sans aucun élément de mobilier, à l'exception d'une petite alcôve dans laquelle une pyramide de verre sur un socle de fer avait été posée. Les murs étaient couverts de toiles d'araignées et une atroce odeur d'urine, de moisissure et d'humidité emplissait leurs narines.
« Personne n'a dû entrer ici depuis le passage du nuage, » ajouta Akan.
« À l'exception des chiens errants, » précisa Sabi, « des chats mourants, des rats, des cafards et des papillons. »
Les monarques continuaient de danser au-dessus de leur tête, du moins ceux qui n'avaient pas été pris dans les gigantesques toiles. Akan et Sabi tenaient toujours à quatre mains le long manche du marteau. Ni elle ni lui n'avaient voulu céder. Ils s'avancèrent donc ensemble jusqu'à l'alcôve. La petite pyramide de verre semblait reposer sur une dune de poudre d'or. Ils lurent à 4 yeux la phrase gravée sur le socle de fer. « Norwa, un moulin pour que survivent les plus doués » et remarquèrent l'emplacement de la rose des vents, sculptée à côté.
« Je suppose, » commenta Sabi, « que c'est ici que l'on doit placer le sublimateur ?» Hein, quand on en a un ?
Akan observait la pyramide de verre, semblant chercher une solution moins radicale pour la désactiver que de la briser d'un coup de masse. Dès qu'ils effectuaient un pas de côté, ses épais cheveux frisés s'accrochaient aux toiles d'araignée et aux papillons morts.
Quand on en a un, répéta Akan, tu peux encore sortir, Sabi. Ça sert à rien qu'on soit deux à jouer au martyr.
Sabi fit courir ses mains sur le manche du marteau, sans le lâcher, jusqu'à les poser sur celle de son amoureux.
Tu rigoles? Tu crois que je pourrais survivre sans toi dans ce nouveau monde à la noix?
Oui, dit doucement Akan. Je crois que je préférerais ça.
Eh bien, moi aussi, figure-toi. J'adorerais donner ma vie pour que tu ne meures pas. Tu imagines la classe? Tu deviendras roi et tout le monde composera des poèmes en ma mémoire. Encore plus populaire que Mama Luna. Mais je crois que je n'aurai jamais cette chance, vu que tu es aussi têtu que moi.
Sabi s'arrêta de parler, comme si son stock de plaisanteries s'était brusquement tari. Ou qu'enfin, la gravité du moment la rattrapait et qu'elle n'avait plus la force de faire semblant de s'en moquer. S'il brisait la pyramide de verre et le mécanisme de sublimation sur lequel elle reposait, la poudre de pandorite immanquablement s'échapperait. Il l'inhalerait et se condamnerait.
Il y a peut-être une solution,
dit Akan d'une voix presque timide. Il ne lâcha que d'une main le manche et sortit de sa poche la boîte jaune, celle qu'ils avaient trouvée dans le coffre de Mordelia, au quatrième étage du tipi. Il la posa dans l'alcôve, à côté de la pyramide. Sabi avait compris.
L'antidote de Mama Luna? Celui que Silver, le papa de Luponera, a fauché à ses autres copains du laboratoire Utopie? Le seul problème, si je me souviens bien...
Elle lâcha elle aussi d'une main le manche pour ouvrir la boîte.
C'est qu'il ne restait que deux pilules, poursuivit Akan.
Tu remercieras ton ex.
Une pour toi et une pour moi.
Ils observèrent les deux minuscules gélules jaunes, pas plus grosses que les dragiperles au citron qu'Honora leur préparait quand ils étaient encore au château. Sabi fut la première à s'exprimer.
L'antidote ne permet pas de guérir, nous le savons tous les deux.
Mais il retarde les effets de la pandorite, comme pour Marie-Lune, Pierre-Sol ou les autres adultes qui nous ont élevés.
Sabi attrapa une pilule entre son pouce et son index.
5 ans? Peut-être 6? C'est ce qui va nous rester, alors?
Akan attrapa l'autre gélule. Ils portèrent tous les deux les doigts à leur bouche, y déposèrent les deux billes jaunes, puis s'embrassèrent en avoir la respiration coupée. Quand ils détachèrent enfin leurs lèvres, Akan serra à nouveau le long manche du marteau.
On a le temps d'en faire des choses, Sabi. En 5 ans.
Sabi souriait.
On vivra chaque jour comme si c'était le dernier.
Akan n'eut pas la force de continuer à jouer la comédie. Sabi le fit pour deux.
Les autres vont en crever de jalousie de nous voir vivre ainsi. Ils vont tellement croire qu'ils ont le temps pour tout qu'ils vont se retrouver vieux sans même avoir profité de leur jeunesse. Pas nous.
Des larmes coulaient sur les joues de la Lolly Girl, noyaient ses fossettes, mais elle ne parvenait pas à se taire.
5 ans avec toi valent mieux qu'une vie sans toi.
Leurs 20 doigts humides se mêlaient sur le manche de bois.
Et puis, c'est mieux comme ça. Je suis tellement insupportable qu'au bout de 5 ans, de toute façon, t'en aurais eu marre de moi.
Pour la première fois, Akan sourit, pour ne pas laisser Sabi porter seule le poids du désespoir.
Ça n'y croit pas trop, Sabi. Les savants n'ont pas encore perdu leur course face à la maladie. Liu, Lunella, Moebia et les autres auront 5 ans pour fabriquer un antidote plus efficace.
Je n'ai jamais trop fait confiance à ces grosses têtes, tu sais.
Akan, sans prononcer un mot supplémentaire, remonta autant qu'il le put jusqu'à son nez, l'écharpe qu'il portait autour du cou, au-dessus des 2 pendentifs légués par sa mère, le coquillage et la petite tour Eiffel. Sabi couvrit également ses narines en remontant au maximum le col de sa veste de cuir. Tous deux savaient qu'une protection aussi dérisoire ne suffirait pas, et que, même habillé, il ne pourrait pas lutter contre la respiration cutanée. Ils levèrent ensemble, à 4 mains, l'énorme marteau de fer, gonflèrent leurs poumons, retinrent au maximum leur respiration, et abattirent aussi fort qu'ils le purent la masse sur la pyramide. Un nuage de verre, de sable d'or et de composants électroniques explosa dans la chambre conique. Akan et Sabi lâchèrent aussitôt la masse, coururent vers la sortie, ne respirèrent qu'une fois dehors, à plus de 20 mètres du monument de briques. Une pluie d'or couvrait leurs épaules, des paillettes étincelaient dans leurs cheveux, Même leurs yeux, leurs joues, leurs lèvres brillaient de la pandorite, mortelle, microscopique, partout sur leur peau. Le septième moulin sublime était détruit. Le monde serait peut-être sauvé, et il continuerait de tourner. Sans eux. Le monde futur existerait, grandirait, vieillirait. Pas eux.